c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Et oui, c'est l'heure de jouer. La bête du Gévaudan a sévi dans les campagnes françaises entre 1764 et 1767 et tué une centaine de personnes. Alors aujourd'hui encore, on ignore la véritable nature de ces attaques et surtout l'identité de la bête. Elle a disparu de la région le 19 juin 1767, le jour où un chasseur de la région du nom de Jean Chastel tire sur un gros animal et le tue. À partir de là, les attaques cessent. À en croire les témoins, la créature abattue a quelque chose du loup, mais pas tout à fait. Elle a une tête hideuse et un manteau rouge, blanc et gris que les chasseurs n'avaient jamais observé sur un loup auparavant. Le mystère reste entier et aujourd'hui c'est même un mystère ludique puisqu'il faudra découvrir son identité. Voici La Bête, un jeu de Charlec édité par Multiverse et distribué par Ludistri. Alors dans La Bête, les enquêteurs ont 12 tours maximum correspondant à 12 saisons pour trouver et tuer la bête. La Bête est un jeu coopératif où les joueurs vont enquêter ensemble pour la trouver. Mais l'un des joueurs sera la bête et fera tout pour échapper aux enquêteurs et tuer un maximum de victimes. La bête gagne immédiatement la partie si elle tue 25 personnes. Les enquêteurs gagnent s'ils récupèrent 4 des 5 identités de la bête ou s'ils trouvent bien sûr son identité. Alors mise en place rapide, on place le plateau représentant le Gévaudan avec différents villages et hameaux. Les joueurs se répartissent les plateaux des différents enquêteurs. Si vous jouez à deux, l'un des joueurs joue la bête et l'autre tous les enquêteurs. Et à chaque tour, on dévoilera une saison. La bête possède 5 jetons identité. Loup, fauve, diable, comte et vagabond, représentés par de gros jetons en résine. On a du très très beau matériel. Son identité réelle est cachée sous le plateau en début de partie et figure donc sur un des 5 jetons. Chaque saison proposera un événement en particulier. Les enquêteurs pourront d'ailleurs s'aider de renforts qu'ils poseront sur les villages. Les dragons du roi protègent les villages et la bête ne peut pas faire de victimes. Les paysans, eux, pourront se défendre, mais ils ne sont pas assez forts et la bête fera juste une victime de moins. Remarque, c'est déjà ça. Ensuite, la bête va récupérer un jeton trace joué 2 saisons plus tôt, sauf s'il a été capturé bien sûr. Elle va ensuite choisir l'un des villages secrètement où elle compte frapper, sachant que la bête ne peut se déplacer que de 4 lieux maximum sur la carte. Alors quand la bête joue et attaque un village, elle laisse des traces. Ces traces, elles peuvent rester cachées aux enquêteurs de chercher, mais elle peut aussi les rendre visibles pour bénéficier du pouvoir. La meute de loups pourra se déplacer de 6 au lieu de 4, le comte ignore les dragons du roi, et le fauve fait une victime supplémentaire. Une fois les traces indiquées, les enquêteurs vont se déplacer pour traquer la bête. Mais eux ne pourront se déplacer que de 1 ou 2 lieux. Ou rester sur place, ils peuvent aller jusqu'à 3, mais dans ce cas, ils conservent leur capacité d'enquête, mais la bête pourra faire des victimes. Donc on peut enquêter, mais par contre la bête fera des victimes. Alors c'est le moment pour la bête de révéler le village où le sang va couler. Si elle est seule, elle fera des victimes. 5, moins le nombre de déplacements. Si elle s'est déplacée de 2, elle fera 3 victimes. Voilà, maintenant les enquêteurs savent où la bête est, ils vont pouvoir enquêter. La bête révèle sa trace, si elle était face cachée, si l'enquêteur a cette trace sur son plateau et qu'il est dans le même village que la bête, il pourra capturer cette identité. Si c'était l'identité cachée, les enquêteurs ont gagné. Sinon, une nouvelle saison débute. Ah oui, j'oubliais, un enquêteur présent sur un village attaqué à la saison précédente peut aussi enquêter s'il a l'identité du jeton révélé sur son plateau, bien entendu. N'oubliez pas, les indices laissés par la bête disparaissent après 2 saisons, ce qui pousse les enquêteurs à vite se rendre sur un village attaqué ou à anticiper une zone d'apparition du monstre. Un jeu seul contre tous, immersif, qui nous plonge dans cette terrible histoire du Gévaudan. Ce n'est pas si évident de jouer la bête, et plus vous êtes de joueurs à jouer les enquêteurs, et plus la tâche est compliquée, car vous n'aurez pas forcément le même avis. En tout cas, il y a de la discussion, mais attention, la bête vous écoute. Un jeu où vous allez changer de rôle pour une autre expérience. La bête, c'est un jeu très réussi, sorti pour Halloween et que l'on retrouvera certainement sous beaucoup de sapins à Noël. Allez, d'ici quelques instants, c'est l'heure de rétro ludique. On va revenir en arrière sur un jeu un petit peu plus ancien, mais un classique du genre aujourd'hui, c'est Pandémie.
C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le jeudi, c'est rétro ludique, on revient sur un jeu un petit peu plus ancien et des fois on revient aussi sur des classiques avec Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Et aujourd'hui, c'est, on peut le dire, c'est un classique, c'est Pandémie.
Ouais, carrément, je voulais vous parler d'un jeu de Matt Leacock, Pandémie. Alors pour moi, c'est plus qu'un classique, pour moi c'est un monument des jeux de société, Pandémie. On est sur du jeu de plateau coopératif. Moi, personnellement, il me semble que c'est avec Pandémie que j'ai découvert les jeux de plateau coopératifs.
D'accord.
C'est un jeu qui date de 2008, puis je suis pas si vieux que ça, donc j'ai découvert avec Pandémie. Puis, ouais, à l'époque, il y a une dizaine d'années, bah, quand tu voulais jouer à un jeu de plateau coopératif, tu jouais à Pandémie. Il n'y avait pas cette profusion qu'on a actuellement, et Pandémie faisait partie des énormes références.
Bien sûr. Ouais.
Quand on était fan du genre. Donc Pandémique, c'est sorti en 2008. Alors il est plus ou moins d'actualité, hein, parce qu'on va devoir s'occuper de plusieurs maladies qui se répandent sur Terre, essayer de contrer la propagation de ces virus et de trouver les remèdes pour soigner les populations.
Ça existe ça, Jonathan ?
Comment ?
Ça existe ça ?
apparemment ça existe, ouais. J'ai entendu parler d'un truc ces dernières années,
ouais.
Mais c'est, ouais, je me souviens plus très bien. Enfin bref. C'est super, moi je trouve que c'est super plaisant. On a vraiment une mécanique qui est grandiose. On va chacun avoir un personnage, un pion sur le plateau, un plateau qui représente notre planète. Chaque personnage a ses propres spécificités. Donc il y a des joueurs qui sont plus forts pour contrer les maladies, d'autres pour se déplacer, d'autres pour créer des centres de recherche. Et donc, à son tour, on est limité en nombre d'actions. Et il y a plein de petites choses à gérer partout. Donc on se déplace de ville en ville, on soigne les populations. Il faut à la fois se répartir les tâches, dire qui c'est qui va gérer en Asie les problèmes qu'il y a, qui c'est qui reste en Europe. Il faut donc contrer ces maladies pour pas que ça devienne trop le bazar. Si évidemment il y a trop de maladies, ça crée des réactions en chaîne où il y en a encore plus qui vont popper dans tous les sens. Et en même temps, il faut accomplir l'objectif du jeu qui est de trouver des remèdes. Donc il faut peser le pour et le contre de chaque situation. Donc c'est assez malin. Moi, l'un des gros plaisirs du jeu, c'est la gestion de main de cartes. Chaque joueur va avoir une main de cartes, donc c'est juste des cartes de couleur qui représentent les villes du plateau.
Mmh.
Et ces cartes servent à plusieurs choses. Donc ça crée des dilemmes qui sont simples, mais que je trouve assez intéressants. Les cartes permettent de se déplacer vers les villes de la carte. J'ai la carte Sydney, je la joue, je peux aller à Sydney.
Ouais.
Mais en même temps, ces cartes sont indispensables pour créer des remèdes. Donc à chaque fois que j'en utilise, ça m'avantage à l'instant T. Mais ça retarde la victoire.
Bien sûr.
Aussi se retrouver entre joueurs des fois pour se partager des cartes. Donc, moi, il faut que j'aille en Asie pour régler les problèmes. Ah ouais, mais en même temps, si je passe sur ta case, on peut se faire des petits échanges de cartes qui nous permettent d'atteindre la victoire. Donc, c'est les dilemmes, moi, qui font la richesse de jeu. Et moi, personnellement, encore aujourd'hui, je joue à Pandémie. Je trouve ça vraiment... Ça reste pour moi un très très bon jeu de plateau coopératif.
Et puis il y a énormément de versions de Pandémie.
Voilà, ouais. C'est ce que j'allais dire, effectivement. En plus, il y a beaucoup, c'est une gamme avec plein de choses. Et des choses que je trouve assez excellentes à chaque fois. Donc au début, il y avait quelques petites versions alternatives de Pandémie qui sont sorties. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on a le droit à une version alternative tous les ans.
C'est ça.
Donc voilà, on a eu sur des maladies en Espagne au début du siècle dernier. On a eu sur des thématiques de Lovecraft. Voilà, ça a été revu à toutes les sauces. C'est assez intéressant à chaque fois. Ça s'éloigne pas trop du matériau de base, mais en même temps, ça apporte assez de nouveautés pour que ce soit très chouette à jouer.
Il y a eu un Legacy aussi, il me semble. Hein.
Voilà, il y a le Legacy. Pour moi, c'est l'un des jeux les plus marquants auxquels j'ai joué de ma vie de joueur, je pense, pendant Legacy.
D'accord.
Il y a le concept de Legacy. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le principal intérêt de ces versions-là, donc le Pandémie Legacy, c'est que chaque partie que tu fais ne s'arrête pas à la fin de la partie. Il va y avoir des impacts. Des choix que tu fais vont avoir des impacts sur les parties futures. Donc c'est super investissant sur une mécanique de base de Pandémie qui est très très bonne. Mais ça apporte autre chose. Il y a un petit aspect de jeu de construction moi que j'aime beaucoup. Je fais des choix qui vont rester. Le jeu va faire des choses. Si je les contre pas, ces aspects négatifs vont peut-être rester de partie en partie.
Ouais.
Donc c'est moi je trouve assez grisant comme sensation de jeu. Après il y a je pense un talent d'auteur pour le coup. Donc avec Matt Leacock, j'ai oublié son nom. C'est un auteur super célèbre. Et là, j'ai un trou de mémoire qui a bossé sur le Pandémie Legacy.
Ah, attends, je vais essayer de trouver.
Si je cours, je peux le trouver.
oui, tu es dans le magasin,
connu.
Jonathan.
Il a fait Cthulhu Death Medaille récemment, c'est Rob Davio.
Oui, d'accord.
C'est Rob Davio et qui avait déjà fait, il me semble, Risk Legacy, qui était le premier jeu Legacy avant Pandémie. Donc c'est lui qui est à l'origine de ce concept qui est démentiel. Et dernièrement, il y a eu le Pandémie Star Wars.
Voilà.
Encore une fois, moi, j'ai trouvé ça excellentissime.
Tu y as joué, du coup ?
C'est le jeu auquel je joue beaucoup en ce moment, ouais.
Ah ouais, d'accord. J'ai pas encore testé.
C'est très, très sympa. Au lieu d'avoir tes cartes en main, tu construis un tableau de cartes à effet devant toi.
D'accord.
Donc, okay. Ça change pas mal de Pandémie et c'est très, très plaisant. Et j'ai l'impression que la licence est super bien respectée en plus pour les fans de la guerre des clones.
D'accord, ok. Bon, eh ben super, merci beaucoup Jonathan de nous avoir parlé
toi,
de
Mathieu.
Pandemic et de toutes ces différentes versions. En tout cas, c'est un jeu pour toi qui t'a marqué.
Tout à fait, ouais, qui a marqué ma vie de joueur.
Merci Jonathan et on se retrouve jeudi prochain.
Merci, belle journée.
Salut.
Salut.